les mots des religions. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. C'est le mot serpent dont nous parle aujourd'hui Haïm Korsia. Haïm Korsia, bonjour.
Bonjour.
Dans quel contexte ou dans quel texte apparaît le serpent ?
Ouf, c'est l'un des premiers personnages de la Bible, le serpent. C'est le serpent tentateur qui va faire quelque chose d'assez extraordinaire. Il va démontrer à Ève que Adam s'est moqué d'elle. C'est terrible. Et si vous permettez, je vais vous raconter à ma façon l'histoire de cette fameuse pomme qui n'est absolument pas une pomme.
Qui n'était pas une pomme, tout le monde devrait le savoir.
Tout le monde devrait le savoir. Alors, comment ça se passe ? Dieu dit à Adam la chose suivante. De tous les arbres du jardin, tu mangeras. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Point. C'est clair et net. Adam est seul. Ensuite, il se trouve un peu seul, trop seul. Dieu l'endort, il lui prend une côte, c'est l'histoire, et hop, il se trouve avec une épouse, il est heureux. Là-dessus, il briefe l'épouse en question. Il lui explique un peu la situation. Sauf qu'il se dit, comme elle est moins bien que moi, forcément, elle est née après moi. Il y a deux personnes sur Terre, il faut bien qu'il y en ait un qui est le dessus sur l'autre, c'est humain. Et il dit, je suis le plus ancien, c'est moi le patron. Donc il se dit, je vais lui donner l'ordre bien comme il faut, et puis comme elle est un peu moins intelligente que moi, je vais lui donner l'ordre à ma façon. Et il lui dit, Dieu a dit, et regardez, c'est dans la Bible. Dieu a dit, c'est dans les mots de la Bible, c'est écrit, c'est pas un commentaire, c'est pas le Midrash, c'est écrit. Tu ne mangeras pas et tu ne toucheras pas. Il se dit, c'est clair et net. Le serpent qui entend ça, il se dit, Adam s'est moqué d'elle. Qu'est-ce qu'il fait ? Il lui dit, mange la pomme, tu devrais manger de l'arbre. Pas de la pomme, l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Le Talmud dit que c'est soit le blé, soit la vigne, soit la figue. Le blé ou la vigne.
C'est pas important, ce
non,
que
peu
c'est,
importe,
finalement.
Peu importe. Elle lui dit, mais je n'ai pas le droit. Si je mange ou j'en touche, on meurt. Il lui dit, ah bon ? Il la pousse. Il la pousse sur l'arbre, elle le touche. Elle ne meurt pas. Et elle se dit, si là, mon mari m'a menti, alors il m'a menti aussi sur l'autre. Et le serpent, en fait, s'engage dans la brèche, dans le manque de confiance des hommes. C'est en ça qu'il est tentateur. Et peut-être que toute l'histoire du monde aurait été changée si l'homme avait fait confiance à sa femme, totalement confiance, s'il avait considéré son égal, son alter ego.
Donc tout ça, c'est la faute de l'homme, finalement.
Je pense.
Beaucoup plus que la faute de Ève ou du serpent.
Oui, parce que finalement, non, le serpent voit ce qu'il y a. Et alors,
oui,
la
oui,
sanction...
il s'engouffre dans la brèche, lui.
Alors évidemment, elle se dit, et elle dit à Adam, regarde, tu m'avais dit qu'il ne faut pas toucher, j'ai touché, il n'y a pas de problème. Bon, j'ai mangé. Et Adam se dit, si elle a mangé, qu'elle n'a pas de problème, après tout, moi aussi. Et bon, voilà.
Donc, c'est une perte de confiance là-dessus, de lui aussi par rapport à Dieu.
Oui, mais l'homme et la femme sont sanctionnés et le serpent est sanctionné. Le Midrash nous dit que le serpent marchait avec des pattes, il n'a plus ses pattes, il va ramper par terre, dans la poussière du sol, et les hommes lui écraseront de leurs talons sa tête. Voilà où le serpent apparaît. Donc c'est vraiment l'un des premiers. Alors, il symbolise évidemment la tentation phallique, il symbolise la tentation tout court, il symbolise la fourberie, il symbolise tout ce qui est néfaste dans les relations humaines. Mais on voit apparaître des serpents tout au long de la Bible. Par exemple, vous connaissez ce passage très connu de la Bible, lorsque Moïse veut impressionner le Pharaon pour lui montrer que c'est bien Dieu qui l'a envoyé pour obtenir la libération des Hébreux, Moïse prend son bâton, le jette au sol et le bâton devient serpent. Les Égyptiens, magiciens égyptiens, font la même chose, prennent des bâtons, ils les jettent par terre, ils arrivent à le faire devenir serpent. Sauf que le serpent de Moïse mange tous les autres serpents et Moïse le reprend et il redevient bâton. Le symbole est très intéressant, je trouve. Quand le serpent est un bâton, le serpent, c'est les pulsions. Quand on a maîtrisé ses pulsions, tout le monde arrive à dominer ça. Mais une fois qu'on a laissé libre cours à nos pulsions, être capable de les remaîtriser de nouveau, ça c'est impossible. Parce que ça, les magiciens, ça, ils n'arrivent pas. C'est-à-dire que quand ils laissent libre cours à la bestialité de l'homme, pour recanaliser tout ça, c'est impossible si on n'a pas la mesure spirituelle de Moïse.
C'est un enseignement dont on devrait tirer effectivement quelques leçons.
Oui, on ne doit pas ouvrir la boîte de Pandore aussi facilement que ça. Et puis on voit apparaître un serpent de manière stupéfiante, mais vraiment stupéfiante, pas d'autre mot, lorsque des serpents de feu viennent dévorer les Hébreux, il les pique, il les mord, il meurt. Et Moïse s'inquiète, il dit à Dieu, qu'est-ce que je peux faire ? Et Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain. C'est-à-dire que Moïse fait une idole. Il fabrique, il façonne un serpent d'airain. Tu le lèveras, Quiconque le verra, vivra. Le commentaire demande, mais quoi, c'est l'idolâtrie. Et Rachid dit une chose magnifique. Non, parce que Moïse le tenait en l'air, et quand il levait les yeux, il retrouvait le chemin pour se tourner vers Dieu. C'est-à-dire que le serpent d'airain n'était qu'une sorte d'indicateur de flèche pour savoir vers qui se tourner. Et lorsque ces serpents de feu venaient les mordre, qui regardaient vers Dieu, à ce moment-là, ils vivaient. Donc vous voyez, mais il y a quand même besoin, ce qui montre quand même, c'est très intéressant, encore une fois, que ces serpents qui nous semblaient de feu et qui laissaient aucune chance aux hommes, c'est-à-dire les tentations, le monde que certains nous décrivent comme étant un monde de consommation, on pourrait transposer des choses comme ça, en fait, c'est quoi? C'est de l'airain, c'est-à-dire c'est rigide, c'est rien, c'est un bout de fer. Et si on prend conscience de la fragilité de ces tentations, elles ne nous atteignent plus. C'est très actuel, très, très moderne comme vision. Le serpent est, je dirais, consubstantiel de ce que nous sommes.
Donc le serpent, c'est vraiment un symbole sur lequel on peut méditer longuement.
Oh bah, très, très longuement. Il y a beaucoup, et peut-être mon préféré, c'est le serpent qu'on trouve dans le Talmud. Je raconte, il y avait dans le Talmud un serpent et un trou. Il y avait un serpent qui était caché dans ce trou, et chaque fois que quelqu'un traînait autour, le serpent sortait, le mordit, il mourait. Un rabbin est allé, il a dit où ça se trouve, ça faisait peur à tout le monde. Le rabbin est allé, où ça se trouve, il est allé, il a mis son pied sur le trou, le serpent est venu, il a mordu le rabbin, et le serpent est mort.
Oh, donc le serpent...
Je ne sais pas si le rabbin était plus venimeux que le serpent. Est-ce que
je pense
sais...
que certains ont dû donner cette conclusion, certains ont bien dit sûr.
Mais peut-être que ce que ce rabbin a voulu dire, c'est que plus que la morsure du serpent, c'est la peur du serpent qui tue. Et peut-être que dans notre société d'aujourd'hui, le serpent symbolise toutes nos peurs, et ce qui fait beaucoup plus de mal que la peur de quelque chose, c'est la peur de la peur. Et contre la peur de la peur, il n'y a qu'une seule façon d'agir, c'est l'action, avancer. Et c'est peut-être ce qui a fait la force d'un pape en quelques courtes années, qui avait été capable de dire « n'ayez pas peur ». Ça se trouve dans la Bible, c'est ce que Moïse a dit aux Hébreux devant la mer Rouge, « n'ayez pas peur ». Al tiraou, n'ayez pas peur. Si vous avez peur, vous n'aurez aucune chance de réussir. On l'a vu récemment encore en rugby. Ça m'a fasciné. Je ne suis pas amoureux de rugby, on s'en fout, je préfère le football. Mais lorsque l'équipe de France a affronté l'équipe néo-zélandaise, ils ont cette danse, les néo-zélandais ont cette danse, le haka, juste avant leur match.
Destiné à faire peur, d'ailleurs.
À faire peur.
Bien sûr.
L'équipe de France s'est approchée, les a regardés, les yeux dans les yeux, pour leur dire on n'a pas peur. C'est vous qui allez avoir peur. Et ils se sont trouvés. Dans leur danse, ils se mettent un peu accroupis. Ils se sont trouvés de facto en dessous des autres. Nos joueurs se trouvaient au-dessus, les dominaient du regard. La peur avait changé de camp. Et je crois que c'est ça. L'idée du serpent, c'est ce qui nous fait peur et qui nous empêche d'être nous-mêmes. L'idée de ce rabbin, c'était simple. C'était, on va faire changer la peur de camp. C'est le serpent qui aura peur de moi, parce que moi, je suis porté par la Torah. Et c'est ce qu'il a démontré à tout le monde. De ce jour-là, le serpent est mort. C'est peut-être pas qu'il est mort vraiment. C'est qu'il est mort comme instrument de peur pour les hommes qui étaient autour
d'eux. Absolument.
Voilà ce qu'on peut dire rapidement, bien sûr, sur le mot serpent dans la Bible.
Merci à Ibn Garcia. On se retrouve une autre fois pour un autre mot.
À bientôt.
À bientôt.